Philippe Descola, bonsoir. Merci d'être avec nous à Bordeaux, à la librairie Mola. Alors, vous êtes ici ce soir pour cet ouvrage, donc des cahiers de Lerne. Alors, bon, je pense qu'il n'est pas très utile de vous présenter extrêmement longuement. Je pense qu'on vous connaît, mais tout de même, pour le dire, donc, vous êtes anthropologue et vous êtes formé à l'anthropologie en Équateur dans les années 70 chez les Achuars. Et vous avez d'abord étudié les conceptions amazoniennes de la nature, mais vous en êtes venu finalement à une réflexion sur l'épistémologie de l'anthropologie qui étudiait le partage nature-culture sans forcément remettre en cause ou étudier sa prétendue universalité. Et c'est ce qui a fondé les programmes que vous avez ensuite menés à l'EHESS, puis à partir de 2001 au Collège de France. Alors, cet ouvrage donc, que vous avez ici, c'est un ouvrage donc, dirigé par Grégory Delaplace et Salvatore D'Onofrio, donc deux de vos collègues. Alors, on a environ 25 textes, dont 7 textes de votre main, la plupart inédits. Et on peut le dire hein, d'emblée, alors le risque des ouvrages un peu collectifs, c'est de ne pas avoir énormément, c'est d'être un agrégat finalement sans grande cohérence. Et c'est tout l'opposé, puisqu'en fait, on a un texte qui se lit presque tout seul, extrêmement bien, chapitre après chapitre. Je vais quand même citer les 5 parties que je vous propose qu'on leur suive après une par une. Donc d'abord, remonter l'Amazone, ensuite engagement théorique de la nature aux ontologies, puis politique de l'écologie, puis l'anthropologie et l'art, et enfin compagnonnage. Alors, on va bien sûr revenir sur la nature, mais un point avant cela qui me semble assez crucial dans vos travaux et dans ce livre, c'est la citation qui est sur le bandeau. L'exceptionnalité humaine est une dangereuse illusion. Et dans la première partie du livre, vous écrivez un petit texte, une affaire équivoque. Alors, vous allez nous le raconter, mais vous nous racontez l'histoire d'un homme que vous avez rencontré en 1976. Vous me dites, si je prononce mal, Pujupat.
Pouroupat.
Pouroupat. Et donc, en 76, mais vous racontez une affaire, 20 ans plus tard, de gendre, de mariage, de chaman et d'assassinat. Et contrairement à l'idée que les autorités équatoriennes feraient preuve de compréhension aujourd'hui vis-à-vis des Achuars, vous nous montrez pourquoi, au contraire, elles sont incapables de prendre au sérieux leur périphérie. Et c'est là, je crois, le bandeau du livre, donc, que l'exceptionnalité humaine est une dangereuse illusion. Si vous pouvez nous en dire un peu plus.
Alors, pour l'affaire de Pouroupat, c'est une... En effet, c'est-à-dire que les militaires de l'armée équatorienne, les officiers, qui, lorsque j'ai commencé à les connaître il y a 50 ans, ne portaient pas dans leur cœur les Amérindiens, surtout les Amérindiens d'Amazonie, qui considéraient comme des sauvages dangereux, en qui on ne pouvait pas avoir confiance, ont au fil des dernières années de la transformation de certains pays d'Amérique latine reçu des cours d'anthropologie à l'académie militaire. Malheureusement, c'est des cours incomplets, et donc le résultat de ce manque de maîtrise dans la connaissance des populations locales, c'est que dans cette affaire, c'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, puisque j'étais un ami rituel de son frère. Je l'ai connu dès que je suis arrivé sur le terrain pour la première fois en 76. Donc, on est à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans une région très isolée. Et cet homme avait acquis au fil des années une certaine importance. Il avait créé même une sorte de hameau, construit une piste d'atterrissage, entretenu des liens avec les voisins chouars et avec des missionnaires aussi. Et il avait obtenu que ces missionnaires ouvrent une petite école avec des instituteurs bilingues qui procède de l'ethnie voisine, qui s'appelle les Chouars, qui sont depuis longtemps en contact avec le fonds de colonisation. Et un premier instituteur avait épousé l'une de ses filles. Et donc, il était très content, parce que par ce biais, il avait contact, un contact avec les Chouars, il avait un contact avec une source de certains types de biens utiles, notamment des outils métalliques, des tissus et des choses comme ça. Et puis quelques années après, un lointain parent de ce premier instituteur a été nommé dans le village et est tombé amoureux d'une autre de ses filles. Et il a demandé en mariage. Il se trouve que malheureusement, cet homme était aussi un chaman. Et les chamans ont un statut ambigu chez les Atchouars, comme dans une grande partie de l'Amazonie, puisque ce sont à la fois des personnes qui sont qui ont pour mission de soulager et de guérir les infortunes du corps et de l'âme, mais qui ont aussi la réputation de pouvoir ensorceler leurs ennemis, ou en tout cas les ennemis qu'on leur désigne. Et donc pour lui, il était hors de question, pour cet homme, que sa fille épouse un chaman. Cette jeune fille, le père lui a dit non, pas question que tu l'épouses, et il a dit au jeune homme, qui évidemment n'était pas très content. Sur ces entrefaites, la jeune fille tombe malade. Son état empire rapidement. On l'emmène dans un petit avion de brousse jusqu'à l'hôpital des missionnaires, où elle meurt en quelques jours. Et il faisait évidemment aucun doute pour le père de cette jeune fille que c'était le chaman qui s'était vengé. Et donc, comme il était devenu un homme bien établi, il aurait réglé ça immédiatement il y a quelques années. Mais maintenant, il a souhaité faire ça dans les règles. Il est donc allé à 2 jours de marche dans une petite garnison militaire, voir l'officier commandant la garnison, et pour lui expliquer ce qui se passait et lui dire qu'il souhaitait que cet homme soit puni. Alors la traduction était compliquée parce qu'il ne parlait pas espagnol, il parlait seulement quechua, et donc c'était une double traduction de l'achua au quechua, du quechua à l'espagnol. Mais finalement, l'officier a fini par comprendre et lui a dit ben non, c'est pas possible, il n'y a rien dans le code pénal équatorien qui permette de punir un chaman, même si les équatoriens, et c'est là tout le problème, ont admis le pluralisme juridique, le droit coutumier. Et donc, ayant compris ce qui s'était passé, il dit mais vous avez certainement un droit coutumier. Alors il a fallu traduire, c'était assez compliqué. Quand il a compris ce que voulait dire le droit coutumier, c'est-à-dire la latitude qu'il avait de régler leurs propres affaires, il a dit « Oui, nous avons un droit coutumier ». Il revient dans le village, il prend son fusil, boum, il tue le malheureux garçon. Et alors, évidemment, ça fait tout un esclandre. Là, il y a un hélicoptère de l'armée qui est venu, les missionnaires sont venus, etc. Puis finalement, il ne s'est rien passé. Mais tout simplement parce que l'officier commandant cette petite garnison avait appris qu'il fallait respecter le droit coutumier des autochtones, mais n'avait aucune idée en quoi consistait ce droit coutumier. Et donc, c'est un malentendu, comme il y en a un peu partout à la surface de la Terre, entre des États et des populations autochtones. Alors, la phrase sur l'exceptionnalité humaine, elle vient au fond d'une autre réflexion. Elle vient du fait que le fait d'exaucer les humains comme des êtres tout à fait à part à l'intérieur de l'ensemble des entités qui peuplent le monde est quelque chose de relativement récent et de tout à fait exceptionnel dans les cultures du monde. Qui est né avec la décomposition en Europe de l'architecture conceptuelle et métaphysique médiévale, dans lequel les humains n'étaient que des éléments à l'intérieur d'une grande chaîne de l'être, où les différents composants de cette grande chaîne avaient des attributs distingués. mais avait un statut un peu à part néanmoins du fait de la Genèse, c'est-à-dire du fait qu'il y avait une mission qui avait été confiée par Dieu aux humains de veiller sur sa création. Mais ça ne faisait pas des humains quelque chose de complètement à part, pas plus que les anges ou les vers de terre. Et cette conception s'est fragmentée à partir de la fin de la Renaissance, et tout particulièrement au XVIIe siècle, pour donner naissance à ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire l'idée tout à la fois que les non-humains, tout ce qui est extérieur aux humains, constitue un monde à part qu'on aurait appelé la nature, et que d'autre part, les humains sont singularisés à l'intérieur de cet ensemble, non pas tant par leur disposition physique qu'ils partagent avec les autres êtres organisés, mais par leurs facultés cognitives et morales, par le fait qu'ils ont un esprit, qu'ils sont capables de communiquer, de donner du sens aux choses, etc. Et c'est ça l'exceptionnalité humaine, c'est de mettre à part les humains comme des maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre la fameuse formule de Descartes, et en tout cas des êtres qui sont dans une position de une capacité en tout cas de connaître le monde par le développement des sciences et de le transformer, puisque le monde n'est qu'un ensemble au fond de d'objets inanimés qui peuvent servir de ressources. Et c'est une dangereuse illusion, parce que on s'en aperçoit maintenant, ne concevoir les non-humains que comme des ressources, c'est aboutir à leur destruction, à leur usage inconsidéré, et avec les conséquences que nous connaissons bien.
Oui, et c'est là où justement, c'est où vous poussez la réflexion, or comme dans vos autres travaux, mais là, vous expliquez au début, donc dans cette partie remontée à l'Amazone, le problème de cette exceptionnalité et tous vos travaux qui consistent finalement à essayer de montrer la pluralité des formes d'expression, oui, sociale, culturelle. Et vous avez un autre texte, toujours dans cette partie remontée à l'Amazone, « Qu'est-ce que comparer ?» Or, c'est le texte de clôture de votre cours au Collège de France en 2019. Alors, de manière détournée, même si vous ne vous attardez pas dessus, on en revient quand même aux quatre matrices ontologiques que vous aviez définies dans Par-delà nature et culture, donc en 2005. Pour ne pas dire de bêtises, hein, l'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme. Ensuite, vous avez élargi ce modèle en 2021 dans les formes du visible avec l'archipel ontologique. Et là, dans ce texte, ce qui est assez fascinant, c'est que vous expliquez qu'est-ce que comparer. Et donc, vous expliquez que pour vous, vous en appelez un comparatisme plus ample, c'est-à-dire un refus de prendre des valeurs dites autochtones et de les ériger un peu superficiellement comme des concepts analytiques très généraux. Et au contraire, vous dites bien que ça ne sera pas la connaissance d'un seul peuple ou une seule manière de vivre qui nous fera finalement comprendre la pluralité du monde et des formes d'expression culturelle, sociale. Et en vous lisant, on a presque l'impression que vous en appelez un comparatisme autant scientifique qu'humaniste. Et je ne sais pas si vous pouviez nous dire quelque chose. On sent vraiment l'ambition humaniste au sens vraiment propre du terme de ce comparatisme que vous avez développé tout au long de votre carrière.
Ben, la légitimité de l'anthropologie, si elle devait en réclamer une, ce serait celle-là, c'est-à-dire de considérer, alors c'est vrai, avec une position un peu en surplomb, qui est fondée non pas sur une domination conceptuelle, mais sur la capacité que les anthropologues ont acquis au fil du temps de manipuler un très grand nombre de données, et donc de pouvoir essayer de comprendre le système des différences qui anime les façons de faire monde tout autour de la planète. Ce que j'ai souhaité montrer dans cette, au cours de ce, c'était un cours d'une année, hein, comme le sont les cours du Collège de France, qui portait sur le comparatisme, et donc la dernière leçon, qui était aussi la dernière leçon que je donnais au Collège de France, portait sur cette, une synthèse au fond de ce que j'avais développé au cours de l'année, et développer cette idée que, contrairement à ce que l'on peut penser, et à, contrairement à une certaine pratique de l'anthropologie, notamment dans les pays anglophones, l'anthropologie, c'est pas un niveau ultime de généralisation à partir de l'observation de cas particuliers, puisque traditionnellement, en France en tout cas, depuis Claude Lévi-Strauss, on a tendance à distinguer l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie comme étant des grossissements différents sur des objets sociaux. L'ethnographie est descriptive, elle est inductive, c'est le produit de l'observation, ça aboutit généralement à des monographies. L'ethnologie, elle, c'est déjà un premier stade dans la comparaison, c'est-à-dire elle met en évidence des traits communs à des sociétés qui appartiennent à, une même, à un même ensemble, à une même ère culturelle, ou bien des phénomènes qui sont... qui présente des similitudes, comme le sacrifice, par exemple, ou certaines formes de mariage, etc. Mais l'anthropologie, c'est un, encore un stade différent qui n'est pas une généralisation de ce qui a été acquis auparavant, contrairement à ce qui se passe, à ce qui s'est longtemps et qui continue à se pratiquer, par exemple, dans l'anthropologie anglaise. C'est une réflexion sur, en France en tout cas, dans la tradition de Claude Lévi-Strauss, dans la tradition structuraliste dans laquelle je m'inscris, c'est une tentative de produire des modèles de la vie sociale à partir d'hypothèses. Et donc ces hypothèses, elles sont bien sûr nourries par la connaissance que l'on a pu acquérir de données ethnographiques à travers, bien sûr, des propres enquêtes que l'on a menées, et puis la lecture de la documentation massive qui s'est accumulée en un siècle dans les bibliothèques et qui permet de proposer des hypothèses concernant des propriétés formelles de la vie sociale. Et ensuite, ces modèles aboutissent à des systèmes de transformation, c'est-à-dire que ce sont des façons d'expliquer les manières de passer des propriétés d'un modèle aux propriétés d'un autre modèle. Alors je sais que c'est un peu abstrait, il faudrait que je fasse si le public le souhaite, il peut écouter mes cours d'ailleurs au Collège de France et de vérifier au fond les hypothèses que l'on fait à partir des matériaux ethnographiques. Donc c'est une approche un peu différente, et au cours de sa vie, un anthropologue peut pratiquer différents types ou différentes focales anthropologiques, comme je l'ai fait, c'est-à-dire d'abord l'ethnographie, puis l'ethnologie, lorsque je me suis intéressé d'abord à l'Amazonie comme un ensemble général, et puis ensuite à certaines caractéristiques que j'ai appelées l'animisme dans le monde amazonien, c'est-à-dire l'idée que les populations, ce que j'avais pu observer chez les Achua, qui s'est trouvé confirmé dans le monde amazonien, à savoir que prêter à la majorité des non-humains une intériorité s'accompagne du fait que, et qui est quelque chose d'observable, que chaque forme de vie, au fond, vit dans un monde qui est différent, et ce monde est une sorte de prolongement de ces outils biologiques, de ces modes de locomotion, ces modes de perception, du milieu dans lequel cette forme de vie vit, etc. Autrement dit, chaque forme de vie se superpose, et c'est évident dans le cas de la forêt tropicale, qui est une grande chaîne trophique, hein, où tous les êtres se bouffent les uns les autres, mais selon une chaîne qui est bien organisée, si je puis dire, chacun de ces êtres n'a de contact ou de relation qu'avec quelques autres, C'est-à-dire qu'il y a des, ce sont des mondes qui se jouxtent, qui se superposent par endroits. Et le génie de l'animisme, c'est que cette multiplicité des mondes correspondant à chaque forme de vie est en partie abolie par la subjectivité de chacune des formes de vie, puisque tous ces êtres peuvent communiquer entre eux dans un langage universel. Et les humains en particulier peuvent communiquer avec les plantes, les animaux, les esprits, à travers de ce langage, dans les rêves, par toutes sortes de médiations, etc. Donc c'est un dispositif très particulier que j'ai retrouvé ailleurs, dans d'autres régions du monde, dans le nord de l'Amérique du Nord, par exemple, ou bien en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et donc, ça apprend, au fond, ce genre d'enquête que l'on mène dans les documents, que j'ai mené, moi, dans mon séminaire à l'École des hautes études pendant des années. C'est formidable d'enseigner, parce que ça permet, effectivement, de réfléchir à voix haute avec des étudiants et des jeunes chercheurs pour essayer de formuler des hypothèses. Et c'est là que, par exemple, je me suis rendu compte que des mondes qui en apparence jouxtaient, comme celui de l'Amazonie et celui des Andes, étaient fondés sur des façons très différentes de faire monde. Et que l'on retrouvait, pour l'Amazonie par exemple, beaucoup plus au nord, parmi les populations autochtones du nord de l'Amérique du Nord, ou de l'autre côté du détroit de Bering.
Et justement, vous faites bien la distinction. On voit comment est-ce que on part toujours, entre guillemets, du terrain, même si le mot est lui-même problématique. Mais comment, à partir de cas peu étudiés ou autres, on peut arriver à des généralités, des abstractions, des théories qui sont finalement performatives. Et ça nous amène à la deuxième partie sur les enjeux théoriques que vous développez. Alors, vous avez parlé de Claude Lévi-Strauss, donc qui était votre directeur de thèse, et donc on a une partie de votre correspondance qui est retranscrite là dans les cahiers. Elle est assez savoureuse. On vous lit donc de 1977 à 2004, et alors on découvre, parce qu'on imagine, alors entre le jeune anthropologue que vous étiez en 1977 et en 2004, mais on voit que il vous donne du cher ami. Dès 1977, d'ailleurs, et vous, pendant 37 ans de correspondance, on vous verra lui répondre systématiquement « cher monsieur ». Donc, on voit une relation, mais qui est une vraie relation amicale, et on vous voit débattre. Et alors, dans toute la richesse de cette correspondance, un moment, donc, Lévi-Strauss vous parle notamment d'un ouvrage que vous avez co-dirigé en 98, « Nature and Society », où... Alors, après vous avoir d'ailleurs bien dit qu'il ne vous mettait pas dans ce lot, mais qu'il avait tout de même la crainte que vous soyez tombé dans ce postmodernisme qui arrive chez nous, et il vous parle de la distinction que vous aviez effectuée entre nature et culture, et à demi-mot, il vous reproche d'être allé un peu trop loin en expliquant que les progrès de l'anthropologie et de l'ethnographie permettent de nuancer, d'élargir, de complexifier cette distinction nature-culture. Et il vous dit, mais cette distinction reste une réalité objective. Ce à quoi vous répondez, alors, 10 jours après, en disant, vous lui dites bien que la critique ne lui était pas adressée, et je vous cite parce que je trouve que la phrase est... Vous lui dites que cette critique était plutôt adressée à ces auteurs qui, n'ayant retenu de l'anthropologie structurale qu'une recette pour établir des oppositions binaires, croient s'être débarrassés de l'obligation de rendre compte de la complexité du monde. Donc là, on voit bien l'anthropologie de Lévi-Strauss, mais donc on voit que ce débat a l'air de ne s'être jamais clos entre vous sur cette distinction nature-culture, ou plus largement sur l'anthropologie. Vous êtes entre guillemets son disciple, mais vous êtes allé également plus loin. Est-ce que vous avez continué toujours à débattre de ce débat nature-culture ou du postmodernisme ou l'anthropologie structurale?
Alors, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur la question du terrain, effectivement.
Oui.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, quand on s'efforce de développer une théorie anthropologique, elle n'est pas issue d'un terrain particulier. En revanche, les questions que l'on cherche à résoudre naissent des étonnements que l'on ressent sur le terrain. Et on peut dire ça déjà de Claude Lévi-Strauss, même s'il est resté peu de temps chez les Bororo, ce qu'il a pu observer chez les Bororo, à savoir une société dualiste, c'est-à-dire une société avec deux moitiés dans lesquelles les membres d'une moitié sont responsables, au fond, de tout ce qui se passe dans l'autre moitié, c'est-à-dire des rites de naissance des membres de l'autre moitié, des rites de mort, c'est dans l'autre moitié qu'on trouve ses conjoints, etc. Donc la réciprocité, les échanges entre ces deux moitiés jouent un rôle fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé Lévi-Strauss. Et donc cette idée de la réciprocité qui traverse toute son œuvre, elle est née de l'observation des Bororo. Ça ne veut pas dire que les Bororo ou que l'anthropologie structurale soit une expansion théorique de ce que Lévi-Strauss a observé chez les Bororo. C'était mon cas aussi, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé chez les Atchoua, alors que j'étais parti pour étudier leur forme de socialisation de la nature, ce que j'appelais à l'époque la socialisation de la nature, je me suis aperçu que pour eux, la nature n'existait pas, puisque la plupart des plantes, des animaux, des esprits, des êtres non humains, si je puis dire, étaient des partenaires sociaux, des interlocuteurs qu'il fallait séduire, contraindre, charmer, etc., etc. Et donc, on ne pouvait pas parler des non humains comme une sorte de bloc externe à la société. La société Atchoir comportait autant d'humains que de non humains. Et ce constat, évidemment, m'a amené à mettre en cause d'abord cette opposition entre nature et société pour montrer qu'elle n'était pas universelle et qu'à ce titre, on ne pouvait pas l'employer comme un outil analytique pour décrire des situations dans lesquelles les gens ne faisaient pas spontanément de différences, ou en tout cas faisaient des différences entre les humains et les non-humains, mais qui ne passaient pas par les mêmes contraste que nous avons nous-mêmes établi. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans le cas de l'animisme, le contraste, il passe par les corps et pas par l'esprit, alors que pour nous, c'est le contraire. Ce qui distingue les humains, c'est l'esprit, et alors que nos corps sont semblables à ceux des animaux ou en général des êtres organisés. Ils obéissent au même principe. Et donc, cette critique n'a jamais cessé pour moi d'être pertinente, en ce sens que la plupart des concepts que nous employons maintenant au jour le jour, mais qui sont des concepts hérités au fond de la philosophie des Lumières et qui ont pris leur expansion dans le développement des sciences sociales au XIXe siècle, sont des concepts qui sont très liés à une trajectoire historique qui est celle de l'Europe qui, acquérant son indépendance et sa subjectivité et au fond se regardant elle-même par l'intermédiaire de la philosophie en particulier de façon réflexive, concepts qui ne sont pas nécessairement adaptés à la description et à la compréhension de sociétés différentes des sociétés européennes. C'est le cas pour société, par exemple. Société, en latin, societas, c'est une association. C'est n'importe quel type d'association. Et la société ne devient cette instance extérieure et supérieure aux humains, au sens où Durkheim l'a thématisé, par exemple, que très tardivement. Et donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, dans la société médiévale ou dans le monde médiéval, les humains ne forment pas une société vraiment particulière par rapport à d'autres êtres qui sont tous qui appartiennent tous au fond au grand collectif soumis à la domination divine. Et donc, cette mise en cause, au fond, des concepts que nous utilisons m'a conduit, au fil du temps, être de plus en plus méfiant vis-à-vis de l'usage de certains concepts. C'est pour ça, par exemple, maintenant, que je parle plutôt de collectif que de société. Parce que, par définition, les sociétés telles que nous les concevons maintenant, ou le concept de société tel qu'il s'est déployé à partir de la philosophie, je pense en particulier à la philosophie classique anglaise chez Hobbes, chez Locke, et en France ensuite au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est un concept qui ne contient que des humains se donnant leurs propres conventions, organisant leur existence par consensus, etc. Alors que une telle notion n'a guère de sens pour décrire les atchoirs, par exemple, puisque chaque espèce, chaque forme de vie spécifique constitue une société pour les atchoirs. Donc il n'y a pas de raison de distinguer la société humaine. Et c'est pourquoi je parle de collectif, parce qu'un collectif, c'est un ensemble qui fonctionne de manière organisée, mais dont le contenu n'est pas prédéfini, au fond, pas, contrairement à la société. Et on peut en dire autant de l'économie. L'économie, comme l'a bien montré l'historien de l'économie Karl Polanyi, c'est une notion que les économistes ont d'une certaine façon créé, un concept qu'ils ont créé à la fin du 18e siècle, au moment des débats entre les physiocrates et les libéraux, pour désigner certaines formes de production de biens, de services et d'échanges qui étaient auparavant encastrées dans la vie sociale, qui n'existait pas comme un domaine séparé. On peut en dire autant pour l'art. Lorsque je me suis intéressé à l'art, vous l'avez signalé tout à l'heure.
Et on y reviendra.
Au fond, l'art, c'est la capacité qu'ont les humains de figurer. Mais ça ne devient de l'art que dans des circonstances historiques très précises. Et on peut multiplier les exemples. Et donc, l'anthropologie, elle incite à la prudence dans l'usage des concepts, de façon à ne pas projeter sur des réalités sociales et culturelles différentes des nôtres, des façons de faire, des façons de voir et des outils analytiques qui ne leur correspondent pas. D'où le débat, au fond, j'y reviens maintenant avec Claude Lévi-Strauss, qui était un homme de son époque, c'est-à-dire je me suis formé comme philosophe au départ, et donc l'opposition entre nature et société, ou nature et culture, elle faisait partie des choses dont on suçait le lait, en somme, avec l'apprentissage de la philosophie. Ça faisait partie des grands éléments de l'architecture métaphysique européenne. Et il m'a fallu un certain temps pour arriver à remettre cela en question, et il y a bien des auteurs qui me reprochent d'avoir ébranlé en quelque sorte cet édifice en mettant en question l'universalité de cette opposition. Et donc le débat avec Lévi-Strauss, il portait au fond sur l'usage de ces concepts, l'usage méthodologique, parce que Lévi-Strauss ne prêtait pas une... Il l'a écrit d'ailleurs quelque part, c'est une opposition qui est méthodologique et pas du tout ontologique. Mais même en utilisant cette opposition entre nature et culture méthodologiquement, comme il le fait en particulier dans ce grand œuvre qui sont les mythologiques, les quatre volumes des mythologiques, ce qu'il fait, c'est tout simplement classer dans des rubriques certains phénomènes parce qu'ils lui paraissent relever plutôt de la nature que de la société. Et de ce fait, c'est une façon d'économiser, au fond, les contrastes entre les éléments qu'il analyse, ce qu'il appelle les mythèmes, c'est-à-dire des morceaux de mythes, en les regroupant à l'intérieur de ces matrices contrastives. Et donc, le débat est porté là-dessus. Et je me souviens que l'une des dernières discussions que nous avons eues s'est conclue par ces mots qu'il a prononcé. Il me disait, si j'avais 20 ans de moins, je reprendrais tout à la racine. Ce que j'ai trouvé magnifique. Bon, à son âge, c'était normal qu'il n'ait pas fait. mais donc, c'était... oui, c'était une discussion qui était très, très fine. Et j'ai d'ailleurs consacré, dans un cahier de Lerne consacré à Lévi-Strauss, qui est paru il y a quelques années, un article qui s'appelle « Les deux natures de Lévi-Strauss », qui est une réflexion sur l'usage par Lévi-Strauss de la notion de nature, qui, dont je crois que dans une lettre, il me dit que c'est que j'ai vu juste. Bon.
il le dit et il l'emploie dans une des lettres, ce que vous venez de citer, où il dit que il n'a plus l'âge de tout reprendre à zéro, mais on voit bien qu'il l'encourage à continuer à le faire. Et dans votre correspondance, on sent aussi la dimension très politique, au sens noble du terme, de ses travaux et des travaux de Lévi-Strauss. Et ça nous amène donc même assez pour dire un mot à ne pas prononcer, ça nous amène assez naturellement à la troisième partie du cahier, mais juste après ces correspondances, sur les politiques de l'écologie. Parce que ce que vous venez de nous dire, en fait, sur les concepts et la manière dont on s'inspire de réalités variées, diverses, et qui ont en fait été masquées par cette européanisation, on va dire, de la pensée et du coup des collectifs, Là, on a d'autres auteurs de renom. Et sur ces politiques de l'écologie, on a Tim Ingold. Alors, vous le dites à d'autres endroits, que vous avez nourri des débats assez intenses avec Tim Ingold. Et c'est un des points positifs et vraiment des qualités, à mon sens, de ce cahier. C'est qu'on voit quelque chose qui n'existe plus énormément dans le milieu universitaire. Il y a un vrai débat. Il y a des vraies contradictions. Et donc, en tant que lecteur, on ne se dit pas juste « Ah, tel pense ça, tel... » Non, on voit comment vous réfléchissez aussi ensemble avec vos désaccords. Et donc, Tim Ingold donc, le dit bien, hein, qu'il reconnaît la nécessité de bien dissocier, voilà, disons, le monde des non-humains que notre culture, entre guillemets, occidentale nous a fait appeler la nature en opposition à la culture. Il dit que c'est notre anthropocentrisme qui nous a poussé à faire cette séparation. Mais il en appelle à un retour à l'anthropocentrisme, alors en le disant bien, un anthropocentrisme non pas toxique, mais salvateur, qui placerait les hommes non pas comme supérieurs aux non-humains, mais tout de même, il dit, au sommet d'une crête, en surplomb, avec une responsabilité vis-à-vis de tous les êtres vivants. Et là, on aimerait connaître, en lisant ça, votre position là-dessus, sur cet appel à un anthropocentrisme renouvelé, certes, mais puisque vous aussi, votre propos est toujours explicitement politique, surtout même depuis les dernières années de crise et de prise de conscience vraiment sociale de la crise dans laquelle nous sommes, que pensez-vous de cette... de son appel de Tim Ingold quand même à cet anthropocentrisme renouvelé.
Alors, il faut d'abord dire, vous l'avez brièvement évoqué, que Tim Ingold c'est un sparring partner depuis longtemps, et il arrive que on retienne pas ses coups, donc nos débats sont parfois très très vifs parce qu'on part de constats très similaires d'une certaine façon. Et sur la question de l'anthropocentrisme, je pense qu'il est inévitable qu'il y ait une forme d'anthropocentrisme dans le rapport aux non-humains, et notamment dans les formes d'organisation politique que nous pouvons concevoir, qui rendraient moins exorbitante, au fond, l'empreinte humaine sur la planète, parce que les institutions que nous pouvons imaginer à l'intérieur desquelles des non-humains pourraient jouer un rôle plus prépondérant, c'est-à-dire des cosmopolitiques, c'est des formes de concevoir les attachements et les délégations de pouvoir entre les éléments du monde, sont d'une certaine façon nécessairement du fait de la capacité perturbatrice et de l'expansion de l'espèce humaine sur la Terre sont et du fait de notre capacité extraordinaire à inventer des institutions nouvelles sont nécessairement anthropocentriques. Cela dit, ça n'implique pas nécessairement de retenir la notion de nature. C'est un débat que j'ai avec des auteurs, des collègues, pas simplement avec Tim Ingold, qui disent si on supprime la notion de nature, il n'y a plus rien à protéger. Et donc, on se trouve dans une situation dramatique. Il y a un auteur dont j'estime la vigueur des convictions qui vient de publier un livre sur cette question, c'est Andreas Malm, oui, qui est un géographe suédois et qui vient de publier un livre extrêmement polémique contre l'idée, au fond, de concevoir que la nature et la société sont des catégories analytiques qu'il faudrait supprimer, car il dit le seul moyen de protéger la nature, c'est de considérer que la nature existe et que les humains sont responsables de sa destruction. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui maintient, à mon sens, cette distinction, l'extériorité au fond de la nature, qui est à la source du problème. Pour revenir à la question politique, pour moi, il ne fait pas de doute que ce que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette façon, effectivement, de concevoir les humains comme extérieurs au monde des non-humains et comme en situation, donc, de contrôler et d'exploiter comme des ressources les non-humains, et la grande révolution anthropologique qui a permis l'émergence du capitalisme. C'est pas là. Il y a d'autres raisons historiques qui sont à la source du capitalisme, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas eu cette révolution anthropologique, le capitalisme, qui est fondé à la fois sur le fait que tout est marchandise, non seulement le travail humain, l'énergie, donc cette partie des humains qu'ils mettent en branle lorsque ils consomment et produisent de l'énergie par leur travail, mais aussi l'ensemble des non-humains, d'une part, et d'autre part, le fait que les humains sont des individus rationnels, égoïstes et calculateurs, et donc que c'est leur cupidité, au fond, qu'il faut contrôler par l'intermédiaire des institutions sociales qui constituent le fondement des démocraties modernes. Ces deux idées-là, c'est la base du naturalisme et c'est la base c'est le fondement moral sur lequel s'appuie le capitalisme. Et donc, politiquement, il me paraît nécessaire de dénoncer inlassablement les racines du naturalisme. Dénoncer, c'est peut-être pas le bon terme, ou en tout cas de les rendre évidentes, de façon à en finir avec les formes de dévastation et de spoliation que le capitalisme a engendré. Alors, je dis, c'est pas nécessaire, parce que le naturalisme a des éléments positifs. En particulier, il a fourni le terreau qui a permis le développement des sciences. Et moi, je suis un amateur de sciences aussi. Je suis un scientifique, donc c'est pas, je suis, de ce point de vue-là, je me sens pas du tout relativiste. Mais les sciences qui m'intéressent sont des sciences qui sont attentives à la complexité de l'entrelacement des phénomènes et qui ne sont pas des sciences réductionnistes, si je puis dire. Donc, oui, politiquement, il me paraît nécessaire, en tout cas, de rendre clairement visible l'assise naturaliste sur laquelle est fondé le capitalisme, de façon à pouvoir un jour le plus tôt possible, le transformer. Ce qui suppose à la fois une autre révolution anthropologique, effectivement, c'est-à-dire, et là on entre dans la question politique que vous évoquiez il y a un instant, c'est-à-dire de resubjectiver les non-humains. Et alors il y a différentes manières de le faire. Il y a des manières qui sont spontanées et individuelles, hein, qui sont de se rendre plus attentif à la multiplicité des attachements qui nous lient et des dépendances qui nous lient au reste du monde, de façon à être à sortir de cette idée de démiurgique des humains comme capable de, en permanence de à la fois de transformer le monde, mais surtout d'en tirer profit avec cette illusion dramatique que les ressources sont infinies et qu'on arrivera toujours à en produire grâce au développement des techniques, d'une part. Et d'autre part, institutionnellement aussi, en essayant d'imaginer des formes différentes de subjectivation des non-humains. Il y en a une que je trouve très intéressante, qui est le fait de donner une personnalité juridique à des milieux de vie, par exemple. Parce que ça inverse le sens de l'appropriation. Ce ne sont plus des humains qui s'approprient un milieu de vie, qui s'approprient la Terre, qui s'approprient un écosystème. Mais c'est un écosystème qui devient propriétaire de lui-même et qui, de ce point de vue-là, consent à ce que des humains viennent l'occuper ou qui consent à accueillir des non-humains. Alors, c'est vrai, c'est toujours anthropocentrique, pour revenir à la remarque de Tim Ingold, puisque ce sont les humains qui décident de le faire et qui inventent des dispositifs de représentation de ces milieux de vie pour leur prêter voix. Et je pense que c'est inévitable. Bien sûr, il y a des accommodements possibles, on sait maintenant. C'est la fameuse... Toutes les distinctions, je les passe en revue dans Par-delà et nature et culture, qu'on avait l'habitude de tracer entre les humains et les animaux en particulier. Et en particulier, certaines espèces de mammifères qui nous sont très proches à la fois sur le plan génétique et sur le plan des compétences. Sont tombées les unes après les autres. L'Homo faber, nous savons maintenant que de nombreuses espèces animales non seulement ont des techniques, mais en inventent de nouvelles, se transmettent des variations techniques à l'intérieur de groupes. Même le langage, on sait maintenant, avec les travaux par exemple de Peter Marler sur les dialectes des pinsons, que ce sont des messages sonores qui sont appris, qui varient de bande à bande aussi. Donc il y a des dialectes qui varient en fonction de l'interlocuteur aussi. Donc on sait maintenant que, alors bien sûr, il reste toujours des différences. On peut malheureusement, il y a un rouge-gorge qui vient me visiter tous les matins quand je me mets au travail à la fenêtre, qui se perche dans l'arbre en face de mon bureau, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec lui. Donc j'ai l'illusion que je communique avec lui, mais pour le moment c'est une communication tronquée. Néanmoins, on peut envisager des formes de communication qui soient et on commence à les connaître. Et plus on les connaît, plus on se rend compte que ces formes de communication sont subtiles.
Et vous en appelez d'ailleurs sur les formes de communication. Il y a toute une réflexion sur l'anthropologie et l'art, où, comme vous le dites, puisqu'il faut bien... Alors, oui, bon, ça reste anthropocentré à partir du moment où ce sont des êtres humains qui essayent de montrer la compréhension des non-humains, mais dans la manière de faire politique, il y a aussi de représenter tout ce que vous nous expliquez. Et il y a toute cette partie sur l'art, en montrant que l'art est peut-être l'un des moyens de faire passer ces messages finalement très scientifiques. Et alors, on a des textes de Jacques Rancière sur la peinture. Et alors, moi, il y en a un en particulier, même si on n'a plus beaucoup de temps, mais on a par exemple un texte de Pierre Michon qui livre carrément un conte érotique, donc sur Pasiphaé, donc la femme de Minos, et qui va s'accoupler avec le taureau Leucos. Et donc Pierre Michon qui l'a fait parler et qui finalement, en fait, au début du texte, on est presque curieux en se disant comment il va nous lier ça aux travaux de Philippe d'Escola. Et puis plus le texte avance et plus on comprend qu'en fait, Pasiphaé va se moquer des êtres humains qui vont être incapables de réaliser pourquoi cette femme peut se prendre, ce sont les mots de Pierre Michon, pour une vache, et elle dire, et eux réinventeront son histoire avec leur moule pour la figurer et surtout la défigurer. Et ce qui vous donne l'occasion d'écrire un autre texte, Zoophilie, où vous montrez donc comment les Grecs, bon, comment tout, on va dire, beaucoup de communautés, de peuples, de sociétés, de collectifs fantasment l'accouplement entre des humains et des non-humains, mais comment certains, comme les Grecs, finalement, vont toujours imaginer des êtres qui ne se parlent pas, et comment d'autres, comme les Inuits ou les Achuars, vont, eux, ensuite, faire figurer, enfin, transfigurer ces non-humains comme des corps métamorphosés. Vous nous parlez de Mukutcham, qui, lui, lorsqu'il rencontre une loutre tous les soirs, se met à la figurer, finalement, comme un être humain. Et c'est là où on a toute cette réflexion sur qu'est-ce que l'art peut, selon vous, apporter justement à cette compréhension de l'anthropologie de la nature. Est-ce que pour vous, c'est vraiment quelque chose, finalement, je sais pas, auprès d'étudiants, auprès du public, quelque chose de plutôt nouveau ou une nécessité, en fait, que l'art rentre davantage en société pour faire comprendre ces concepts-là, le texte Zoophilie appelle un petit peu à cela.
Alors, là, je préfère parler de la figuration, c'est-à-dire de la capacité...
Vous auriez dû leur dire de ne pas mettre le titre « L'anthropologie et l'art
». La capacité à rendre visibles des choses qui ne sont pas ordinairement, pour toutes sortes de raisons. Et les gens qui... procède à la figuration sur des imagiers, c'est-à-dire il figure avec des images en deux ou en trois dimensions. Et les imagiers ont ceci d'extraordinaire que, pour reprendre la formule d'Éluard, ce sont des frères voyants, c'est-à-dire qu'ils rendent visibles des choses que le discours ne permet pas toujours d'exprimer. Et en ce sens, ils sont assez souvent justement des frères voyants, c'est-à-dire qu'ils rendent visibles des choses qu'il faudra très longtemps pour que le discours arrive à saisir. Et l'un des arguments que j'ai développé dans Les formes du visible, ce livre auquel vous faisiez référence, c'est que avant même que le naturalisme tel que je l'ai défini soit thématisé dans les textes, au XVIIe siècle, chez Descartes, chez Bacon, chez Galilée, il est apparu avec ses caractéristiques principales dans les images au XVe siècle, et même très tôt, on a chez des peintres comme Robert Campin, au tout début du XVe siècle, on a ces deux aspects caractéristiques du naturalisme qui sont la singularité des individus. Et donc, singularité qui est fondée sur la mise en évidence du fait qu'ils ont une intériorité, ça c'est l'art du portrait. Et d'autre part, l'invention de la nature comme un dispositif qui est à la fois extérieur aux humains et qui est en même temps construit par le regard que les humains portent sur elle, puisque c'est la peinture de paysage. Et notamment la peinture de paysage telle qu'elle se développe à partir de l'invention de la perspective monofocale, c'est-à-dire le regard subjectif qu'un observateur porte sur le monde et qui va être restitué dans un tableau. Donc c'est les imagiers ont rendu cela perceptible. Et ce qui me frappe, c'est que depuis que, au fond, les codes de la figuration naturaliste sont effrités, ils n'ont pas complètement disparu, mais se sont effrités, en tout cas à partir du cubisme, c'est-à-dire à partir de cette époque où on a abandonné ce qu'on pourrait appeler le monoperspectivisme. Le monoperspectivisme, c'est-à-dire, c'est représenter un être ou une scène telle que vue par un humain, c'est-à-dire en émulant la vision humaine, c'est-à-dire en représentant ce qu'un humain voit. Donc je vous vois, mais je ne vois pas votre dos, donc si je fais un portrait de vous, je ne vais pas représenter votre dos. Alors que c'est la méthode la plus répandue, au fond, pour figurer avant le naturalisme. Et ce que les cubistes ont fait, c'est qu'ils ont montré le dos aussi. Et donc c'est une très très grande nouveauté, parce que ça veut dire qu'on ajoute des qualités à la chose que l'on figure, qui ne sont pas visuellement perceptibles par un humain. Donc à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à voler en éclats. Et je trouve très intéressant chez beaucoup d'artistes, si on veut, parce que c'est le terme maintenant consacré pour la période contemporaine, je trouve remarquable la capacité qu'ils ont de faire surgir des mondes qui sont très différents du nôtre, qui ne portent pas une approche prescriptive, où ils ne dessinent pas un futur en particulier, mais ils rendent visible le caractère singulier au fond du naturalisme. Je vais prendre un seul exemple, c'est celui d'Ólafur Eliasson, ce grand artiste islandais, qui à la Tate Gallery, il y a quelques années, avait représenté un coucher de soleil à l'intérieur de la Tate Gallery. La Tate Gallery, si vous vous souvenez, c'est une ancienne usine électrique au bord de la Tamise. Et ce coucher de soleil avait ceci de particulier, qu'il était assez réaliste, mais en même temps, on voyait exactement comment ça marchait. C'est-à-dire qu'au fond, tout le caractère artificiel de la nature, pourquoi artificiel? Parce que c'est la science qui permet de montrer quels sont les éléments de la nature qui la rendent telle qu'elle est, était déployé. Et on voyait le contraste qu'il y avait entre cette façon de représenter un coucher de soleil et les tableaux de Turner, qui étaient de la Tamise à quelques centaines de mètres de là, où au contraire, c'était l'emphase était mise sur la capacité par les humains, par la peinture, d'émuler au fond la vision humaine. Et je trouve très intéressant chez les artistes contemporains, et je pense, et bien sûr, pas simplement les peintres ou les artistes plastiques ou visuels, mais aussi chez les poètes, chez les romanciers, chez les dramaturges, de figurer des mondes qui sont en cours de réorganisation et qui peuvent fournir des récits qui sont nécessaires, parce que, au fond, ce que j'appelle une ontologie, c'est-à-dire le mobilier d'un monde, hein, c'est ce que nous avons appris à détecter comme pertinent dans notre environnement et qui constitue notre mobilier quotidien. Eh bien, ces ontologies, c'est pas des choses qu'on les apprend à l'école d'une certaine façon, mais c'est surtout qu'on les apprend à travers les récits qu'on nous en fait, que ce soit en Amazonie ou que ce soit à la maison. Et ces récits sont la clé de la transformation, précisément, des façons de faire monde qui sont nécessaires, encore une fois, si on veut échapper à la catastrophe du nouveau régime climatique.
Eh bien, écoutez, comme récit et manière de faire monde, ça sera le mot de la fin, et c'est un autre récit, et avec d'autres manières de faire monde, que vous nous proposez, et on vous remercie infiniment d'être venu ce soir à Bordeaux.
Merci.